des grands toucheurs, des grands voyeurs, des fois ça reste, hein. Même aux États-Unis, hein. Et je parle de Trump là. Et en fait, en fonction de sa sensorialité prioritaire, bien l'enfant il va choisir un objet transitionnel. Oh, c'est un grand goûteur. Les papilles, c'est son truc. Il a besoin de sa tétine ou totote. Docteur, à quel âge lui supprimer? La réponse du docteur, jamais. Foutez-lui la paix. Quand il sera foutu de lui par les autres, eh ben, il ne la prendra plus ou il têtera discretos en mettant la poche. Et puis il bouffera ses ongles, il bouffera son crayon. Ça peut durer toute la vie, ce truc-là. Vous avez des tototes chez les PDG, hein, qui montent leur truc. Bon. Mais non, le mien, c'est pas un goûteur, c'est un renifleur. Il est branché trop de nez. Pour grandir, les passages... Vous savez, les psys aiment bien couper les mots en deux. Hein. Si vous voulez devenir psy, vous pouvez le faire en 3-4 jours. Hein. Vous entraînez à couper un mot en deux. Ça fait vachement intelligent, un peu de frais. Vous voyez, le passage, mettons le passage à l'école, passe A, je veux le couper en deux, il passe à un autre âge. Vous voyez, puis s'il ne s'en sort pas, vous dites qu'il est passage. C'est Lacan qui nous a tout appris. C'est ultra simple, hein, vous allez voir. Vous pouvez être psy en 3-4 jours. Il y a un petit peu de truc à mettre autour. Donc... Notre Loupio, il va avoir besoin de son nanin ou doudou ou pâte, le truc qui pue, qui sent le père, la mère, le chien, la grand-mère, le grand renifleur. Docteur, à quel âge lui supprimer? Idem, jamais. D'autant pas à tel âge qu'il n'aura peut-être plus besoin quand il est petit et de nouveaux besoins quand il est grand. Repère, rythme. Hein. Cet enfant, lui, il en a besoin, mais il a du bol. Si c'est plutôt un toucheur, eh ben il est condamné quand même à avoir des doudous. Hein. C'est très dur en 2016 de naître sans avoir une dizaine de doudous offerts par toute la famille, même s'il ne se sert d'aucun parce que ce n'est pas son truc. Alors les parents sont gentils en général. Hein. Toutes les personnes qu'on a offert un, ils disent c'est incroyable, il en a 10, il ne prend que le vôtre. En vrai, il en prend que dalle. Il y en a quand même un qu'il faut garder, c'est pour l'emmener à la crèche. Parce qu'à la crèche, on nous dit « Vous avez son doudou ?» Mais non, j'ai oublié à la maison, il faut qu'on en achète un, hein, parce que c'est important pour la crèche. Donc, notre enfant, à quel âge lui supprimer? Repère. À 2 ans, il n'a plus besoin de son doudou. Oh, formidable, t'es un grand maintenant, hein, c'est super. Et puis à 3 ans, il va à l'école maternelle. Les boules. Est-ce que la maîtresse, elle va pouvoir me sentir? Phéromone, trou de nez. Je vais reprendre mon doudou. Au cas où ça se passe mal, j'ai une bouée dans la poche, je vais pouvoir sniffer un petit coup, il y a l'odeur de toute la famille. T'as pas besoin de doudou, maintenant t'es grand, t'as 3 ans. Non, non, j'étais grand à 2 ans. Maintenant je suis un nain, je vais chez les géants. J'arrive à l'école, j'ai mon doudou dans la poche, au cas où ça se passe mal, et bien ça se passe pas mal du tout. La maîtresse, elle est gentille, elle est belle, oh, elle sent bon. Elle m'a fait poète-poète dans les cheveux. Je crois que je suis amoureux d'elle. Dès que je sais dessiner, je lui ferai un cœur avec des flèches. Si je suis un garçon, maman trouvera qu'elle n'est pas terrible, la maîtresse. Mais on travaille sur le terrain de la future belle-fille. Donc, avant de sortir de l'école, je suis amoureux d'une autre. Je vais sniffer quand même un petit coup. Mes parents m'attendent derrière la grille grâce au plan Vigipirate renforcé. Avant de sortir, je sniffe un petit coup. Les parents vont me dire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je vais pouvoir dire, rien. T'as fait quoi? On a joué, on l'a dit tout à l'heure. T'as joué à quoi? À rien. Ça veut dire, lâchez-moi la grappe, là encore, j'en aime une autre. Je grandis mon histoire d'amour, n'est-ce pas? Alors, un enfant naît avec des rythmes de vie, des rythmes de développement. Petite parenthèse, l'état d'esprit qui est au cœur de mon travail et de notre travail, dans l'équipe, c'est la notion de bien-traitance. Tout ce que je vous raconte là, ça s'appelle bien-traitance. Bien-traitance, c'est pas le contraire de la maltraitance. C'est savoir regarder positivement l'enfant. Savoir valoriser, encore une fois, l'enfant ou le parent. Savoir valoriser ses compétences. Donc, on développe des repères individuels. Je vais quand même vous mettre un tout petit exemple, il dure 3 secondes, mais c'est une bombe. À un certain moment, je vous demanderai de vous accrocher au siège, parce qu'il est possible que vous tombiez à la renverse. Parler des repères individuels d'un tout petit, c'est parler de la précocité des compétences du tout petit. On n'imagine pas à quel point un tout petit enfant a des compétences incroyables. Et je vais vous en faire une démonstration tout aussi incroyable. En 1990, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Déverter les pas mûrs » avec des petites histoires dedans. Je travaillais beaucoup sur les cinq sens à l'époque et je faisais des conférences là-dessus. Régulièrement, ma grande surprise, j'avais des mamans qui, après la conf, venaient me voir et qui me disaient « Vous savez, mon enfant, mon bébé, quand je rentre de la crèche, je le lave. » Alors ça se passe en crèche et vous allez voir, c'est plus intéressant que chez les centres maternels, mais c'est aussi valable chez la SMAD. Je rentre de la crèche, je le lave, il pue la crèche. Il y en avait plein qui disaient que leur enfant puait la crèche. J'avais jamais remarqué que ça sentait pas bon dans les crèches. Mais pourquoi me disait-elle ça? Il y en avait tellement que dans ce livre, Petites histoires au gré des routes, j'ai mis une petite histoire qui s'appelle « N'a plus la même odeur ». Je racontais l'histoire d'une maman qui lavait sa fille en rentrant de la crèche, et puait la crèche. 90. Deux ans après, 92, je lis des travaux du CNRS de Lyon, service du professeur Gervais, qui publie une recherche qui maintenant est totalement acquise depuis 20 ans, plus de 20 ans, sur ce qu'on appelle les phéromones. Phéromones, c'est une hormone d'odeur que chacun de nous fabrique. Tous les mammifères, la plupart des insectes, une phéromone qui est très à connotation sexuelle. Que montrait le professeur Gervais ? Recherche action, c'est puiser les travaux de recherche et les faire passer au niveau du public. Il avait montré que il n'y a pas deux êtres humains qui fabriquaient la même odeur. Deuxième chose, que la reconnaissance mère-enfant passait, enfin que les enfants, les bébés, fabriquaient la même odeur que la mère. Et que la reconnaissance mère-enfant par l'odeur était du domaine inconscient. Qu'inconsciemment, tous les deux se reconnaissaient par leurs phéromones. D'accord ? Inconscient, alors que la reconnaissance audiovisuelle par l'œil et les oreilles était du domaine conscient. Cette maman, elle voit plusieurs enfants, elle sait que c'est le sien, théoriquement. Elle en entend plusieurs qui pleurent, elle va reconnaître les pleurs du sien, des oreilles magiques. Nous, en tant qu'homme, on n'a pas les oreilles comme ça, surtout la nuit. Et donc, on trouve ces oreilles-là chez les professionnels, hein, dans les crèches, par exemple. Il y en a plusieurs qui pleurent, « Ah, c'est un tel, ces oreilles spéciales. » Bon, ça, c'est conscient, mais les trous de nez, c'est inconscient. Donc vous allez dire, il y a un truc qui ne va pas dans ce que vous racontez. Il y a bien des gens sur Terre qui fabriquent la même odeur, les bébés et les mères, que non. Ce qu'a montré le professeur Gervais, c'est qu'il y a deux séquences et demi qui permettent à l'enfant de cesser de fabriquer l'odeur de la mère et de fabriquer sa propre phéromone à lui, comme les empreintes digitales. La première, c'est dans les deux mois qui entourent la marche, au moment où l'enfant il sent qu'il va prendre de la distance. Eh bien, il arrête de fabriquer l'odeur de la mère pour pouvoir prendre de la distance. Et la mère, en général, ça lui passe sous le nez, si je puis dire, parce qu'elle sent l'éloignement, mais elle le met sous l'angle de la motricité. C'est pire que ça. Deuxième séquence, la puberté. Oh, ça commence un vendredi soir. Notre enfant, et j'y faisais allusion tout à l'heure, va fabriquer des phéromones mâles, des phéromones femelles. C'est précisément, triomphe nostalgique, pour ça que notre ado a besoin encore du nanin dans la poche. Pour pouvoir sniffer des odeurs d'avant. Phéromone mâle, phéromone femelle. Il est un peu perdu dans ses odeurs au début, notre adolescent. Petite parenthèse, il y a des parfumeurs qui, maintenant, fabriquent des phéromones mâles, des phéromones femelles, de synthèse. Hein? Si, en tant que femme, vous avez un cadeau à vous faire offrir, faites-vous acheter Eden, de Cacharel. C'est du 100% phéromone femelle. Si vous mettez Eden, tous les mecs doivent vous suivre dans la rue, normalement. Par contre, pour vos conjoints, ne leur achetez surtout pas Dracar Noir. 100% phéromone mâle. Il ne rentrera pas, hein, le soir. Regarde, hein. Enfin, moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est pas tous les cas. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Pour passer le temps, pas seulement. Je vous raconte ça parce que je vous ai dit deux séquences et demi. J'essaye de vous montrer là les compétences inimaginables et inimaginées, malheureusement, correctement, du bébé. Qu'est-ce qu'a montré le professeur Gervais? Eh bien, qu'il y avait une drôle de phéromone, qu'il a appelé la phéromone caméléon, comme cette bête qui change de couleur. C'est une odeur fabriquée par des bébés de 2 mois, de 3 mois, loin de l'âge de la marche, qui sont mis en crèche. Alors, c'est en crèche, c'est bizarre, pourquoi c'est particulièrement intéressant. Il a montré qu'un bébé qui est mis en crèche, si ça lui plaît pas à la crèche, si l'adaptation ne se fait pas, eh bien, il continue à fabriquer l'odeur de la mère pour se rassurer. Donc, on peut dire que plus ça se passe mal, mieux ça se passe pour la mère. mais c'est heureusement pas le cas le plus fréquent. Et phéromone caméléon, le professeur Gervais a montré que quand un bébé arrive en crèche, si ça se passe bien à la crèche, c'est là où il faut s'accrocher au siège, dans les 15 jours qui suivent son arrivée à la crèche, il cesse de fabriquer l'odeur de la mère, il a 2-3 mois notre bébé là, et il fabrique une odeur qui ressemble à s'y méprendre à l'odeur de la personne qu'il s'est choisi de référence dans la crèche. D'accord ? 1992, c'est 24 ans qu'on sait ça. Hein, vous imaginez les compétences de ce bébé? C'est ahurissant. C'est pour ça que je plaisantais avec la référente. C'est compliqué de choisir une référente. Vous avez des gens dans une crèche, la dame est la référente de ses 5 enfants. Et bien celui-là, il est toujours avec la copine, qui a une peau de vache, qui dit, c'est un des tiens, c'est drôle de jouer avec moi, mais ça ne me gêne pas. Hein? Il choisit une personne. Alors, il y a un parfumeur qui est à Grasse, qui a une boutique à Paris, Fragonard, qui a, il y a une 20aine d'années, créé un matériel pour synthétiser les odeurs, pour enregistrer les odeurs. Ça ressemble à un magnéto avec un stéthoscope qu'on pose au bout et qu'on pose sur la peau. Ça fait un petit tracé, ça permet de faire des parfums de synthèse. Il y a 10 ans, en 2006, ils ont revendu leur matériel pour en acheter du neuf plus perfectionné. J'ai eu la chance de pouvoir acheter donc un enregistreur de phéromones. On est un certain nombre à avoir acheté ça et je l'ai mis dans ma voiture. Quand je vais travailler dans des crèches en région parisienne, j'habite Paris, j'y vais en voiture. J'étais il y a un peu plus d'un an dans une crèche à Bobigny, en région parisienne. Crèche en section, vous savez, bébé, moyen, grand. J'aime bien quand on les classe par âge. Ce qui est la plus grande bêtise, j'allais dire pire, du siècle, n'est-ce pas? Les moyens, c'est extraordinaire, les moyens en crèche. Hein, c'est les enfants qui étaient à quatre pattes, qui passent sur les pattes de derrière, qui ont les pattes de devant qui sont libres, qui ont la peau qui est plus sensible maintenant, un petit nerf opposant, et qui, là on est dans du sensorimoteur, et qui rentrent dans une phase capitaliste. Leur principale activité, jouissance de la main, c'est de piquer tout ce que les autres ont dans les paluches. Si on vous confie Cahuzac en crèche, vous le mettez chez les moyens. Voyez, je soupçonne certaines directrices de crèche de mettre chez les moyens, d'ailleurs, le personnel qu'elles veulent voir en arrêt maladie. Mais tellement tout le monde se tape dessus. C'est assez aberrant de classer uniquement les enfants par âge. Alors que certains jours, repère, il y a des grands qui ont envie d'être bébés, et il y a d'autres jours, des bébés qui ont envie d'être plus grands, par définition. Revenons à notre crèche, là. Je ne travaillais pas chez les moyens, mais chez les bébés. Dans la section des bébés, et la porte était entrouverte. Une auxiliaire dit « Ah, oh, on en a perdu un ». Embêtant quand même, même si c'est un seul. Enfin, c'est de l'humour, hein. Et donc, tout le monde était paniqué. Sauf une des auxiliaires de la crèche qui dit « Oh, il doit être à la lingerie ». Chaque fois que la porte est ouverte, c'était un petit gars de 7 mois, il se barre à la lingerie. Nous va tout faire, hein, voir. Et il était là. Il y avait la lingère en train de repasser son linge. Le petit loupio à plat ventre avec des grands yeux amoureux qui la regardaient. Puis elle dit, viens souvent me voir. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça me fait une compagnie. Donc, coup de bol, c'était en région parisienne. Je vais dans la voiture chercher l'enregistreur de phéromones. Et vous vous doutez de la conclusion, il fabriquait exactement l'odeur de la lingère. Alors, les langues se sont déliées dans la crèche. Il y en a une qui dit... Ah ben, je comprends maintenant pour le biberon. On a un mal fou à lui donner son biberon. Eh bien, quand on y arrive, on appelle la lingère. Paf, il boit tout de suite. Une autre qui dit, ah ben, c'est comme pour dormir. Hein, parce qu'on a un mal fou à l'endormir. La lingère lui fait poète-poète sur le ventre. Petite chanson, il pionce. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est la troisième remarque. Une autre qui dit, ben, ce que je comprends, c'est pourquoi la mère, elle ne peut pas encadrer la lingère. J'aurais dû, si j'étais honnête, réécrire ce passage dans le livre « Des vertes et des pas mûres ». Parce qu'il peut pas la crèche, il peut la lingère. On parle de relations parents-professionnels. Vous vous rendez compte de la confiance? Là, je parle plus des mères. Pourquoi? Parce qu'on est en France et que les métiers de l'enfance sont exercés par des femmes. Si on remplaçait toutes les femmes par des hommes, les mères iraient mieux. C'est les pères qui iraient moins bien, n'est-ce pas? Eh bien, pourvu qu'ils l'appellent jamais papa, hein, eh bien, en fait, la dose de confiance qu'il faut dans la tête d'une maman pour accepter que son enfant, il prenne l'odeur de l'autre, c'est terrible. On parle, je vous parle là, de bébés de 2, 3, 4 mois. Vous rendez compte ? Compétence du tout petit. Alors, repère individuel, bon, je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Dans cette période-là, on va dire, ça va être avant la marche, pour simplifier, notre enfant, il va développer ce qu'on appelle sa sécurité affective. Je pleure, j'ai faim, on me donne à manger, je tends la main vers un objet, on me le donne, enfin c'est love, love. Je commence cette période d'ailleurs par une technique formidable. Tous les bébés humains sont mal foutus, hein, contrairement aux autres mammifères qui sont vachement en avance. Le petit veau, rapido, s'il se met sur les quatre pattes, il mange de l'herbe, enfin c'est un surdoué, le petit veau. Il devrait être prix Nobel, ça s'arrête entre-temps. Le nôtre de bébé, il est nul. Il ne sait rien faire. Il va mourir dans les heures qui suivent. Mais il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une technique de repère qui se passe de fœtus à fœtus, de ventre à ventre. C'est la séduction. Il est beau. Il m'a fait un sourire. C'est pas vrai, c'est une colique. Mais autant qu'on croit que c'est un sourire. Grâce à ça, les adultes vont faire tout à sa place. Il y a même une technique qui se repasse de ventre à ventre, c'est la technique des mendiants du monde entier, l'inclinaison de la tête. Il s'est incliné la tête, et il a appris ça, on ne sait pas d'où. Hein. Tu me donnes un bonbon, dit-il à un des parents, la tête droite, non, t'en as mangé de trop. Il va voir le deuxième parent en inclinant la tête, tu me donnes un bonbon, oui, mais un seul. Le but de ce bonbon, c'est pas d'être mangé, c'est d'être montré au premier parent qui n'avait pas voulu le donner. De façon à ce que, comme prévu, il puisse bien s'engueuler. Vous voyez ? N'est-ce pas ? Donc, sécurité affective. Attention, certains, à 30 ans, sont encore dans ce rapport-là avec les parents. Hein, l'inclinaison de la tête. Ils arrivent à dire à leurs parents à 30 ans, faudrait vous prendre un studio pour avoir votre indépendance. Hein, on appelle ça les adolescents. Donc, repère individuel. Si on faisait que ça, ça poserait un problème. Mais il faut développer d'autres types de repères. C'est les repères sociaux. Les repères sociaux qu'un enfant va développer, vous rappelez, on l'évoquait la traite plume tout à l'heure, la frustration, c'est le contraire. Je ne suis pas le centre du monde, je n'ai pas tout et j'attends. C'est essentiel. Et c'est là où les parents vont devoir tenir le choc. Vous êtes à l'heure. Aimer son enfant, c'est savoir lui dire oui, mais aussi savoir lui dire non. C'est un vrai problème de société, des parents qui ont peur de ne pas être aimés s'ils disent non. Je ne suis pas le centre du monde. Mais si je suis le centre du monde, j'ai été un chicouf jusque-là, je dors avec mes parents, tout, et un soir, le drame commence. Mon père, il vient de se rendre compte que ma mère, c'était sa femme. Il avait complètement oublié. Quand maman était enceinte, il m'avait fait une belle chambre. Mais je n'avais jamais fichu les pieds dans la chambre. Eh bien, dites donc, il me fait dormir dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, j'ai eu la petite lampe, la petite histoire, le petit verre d'eau, tout. Mais j'entends dans leur chambre des bruits incroyables. Des bruits d'hommes et de femmes. Je n'ai jamais entendu des bruits comme ça. Visiblement, ils font la fête et ils ne m'invitent pas. Heureusement, je vais à la crèche. J'ai 13 mois et il y a un redoublant. C'est un qui a 2 ans. Parce qu'il n'y a pas de risque de fermeture de classe, donc on les gardait jusqu'à 3 ans. Il a une culture générale extraordinaire, le vieux, là. Je lui ai dit, je suis tombé dans une famille pagaille. Tu te rends compte ? Ils font la fête et ils ne m'invitent pas. Comment je pourrais faire ? Oh, moi, ils me le font souvent aussi, mais ne te casse pas. Il y a une technique formidable pour retrouver tes repères. Tu pleures. Tu pleures et tu vas voir les choses rentrer dans l'ordre. Je lui dis, mais c'est obligé. Alors il me dit, oui, oui, c'est, il était venu à la conf, c'est pour ça. Il me dit, c'est une question des oreilles. Parce que papa et maman, ils n'ont pas les mêmes oreilles, il me dit, le vieux. Il me dit, papa, enfin, maman, elle a des oreilles faites pour pas entendre un marteau piqueur, mais entendre quand tu pleures. Papa, il a des oreilles faites pour dormir. Donc, essaye. Le lendemain, ils refont la fête. Je leur laisse un quart d'heure pour se reposer. Je pleure. Eh bien, ça marche, il avait raison, le vieux. Hein. Ma mère, avec ses oreilles spéciales, elle réveille papa, t'entends, il pleure. Ma socialisation, repères sociaux, a failli être en marche. Papa a ouvert une paupière et a dit, quand il en aura marre, il s'arrêtera. Mais le copain, il m'avait prévenu. Il m'a dit, il y en a des plus résistants que d'autres. Camarades, continue le combat. Donc, j'ai continué à pleurer. 20 minutes après, maman a réveillé papa. T'entends, il pleure. Papa ronflait. Maman a eu une excellente idée. Je vais le faire dormir entre nous, ça m'a le calmé. Eh bien, ça m'a calmé illico, dites donc. Allez savoir pourquoi. Sauf qu'il s'est passé un truc bizarre après. au niveau des repères. Papa a ouvert une autre paupière et il a dit, qu'est-ce qu'il fait là? Papa est quelqu'un d'extrêmement important, donc le lendemain, il avait une réunion extrêmement importante, donc il fallait qu'il dorme. Il a pris la couette, il a dit, je vais dormir dans la chambre du petit. Et comme il est quelqu'un de prévoyant, le lendemain, il a dit, je vais dormir dans le canapé du salon. Si ce travail vous intéresse, à la CNAF, on tient à votre disposition les chiffres des séparations et divorces qui suivent la première année de la naissance d'un premier enfant. On voit toute l'énergie qu'un enfant met pour éloigner l'homme de la femme. Je ne suis pas le centre du monde. Deuxième axe, repères sociaux, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Avant, j'avais tout, j'étais un bébé. Il va falloir que j'apprenne que je n'ai pas le droit de tout faire. Donc, je vais me servir de mes parents pour essayer d'avoir des limites. Je vais appliquer la méthode des bêtises, par exemple, une très répandue. Je vais faire des bêtises le même jour pour voir dans les combien ça coûte. Deux hémisphères cérébraux, droite-gauche. On va appeler ça un code pénal. Si la bêtise coûte cher, je l'écrirai page de droite, bêtise à parfaire. Si la bêtise coûte pas cher, pour l'instant il est vierge mon code pénal, parce que j'avais le droit de tout faire. Si elle coûte pas cher, page de gauche, bêtise à refaire. Je les groupe de même jour, le même jour, pour avoir une bonne lisibilité. 9h, je fais une méga bêtise. Avant, papa ours, vous rappelez, grand bol, boucle d'or, paf, une baffe. Tu pleures, t'en as une deuxième. Page de droite. Je remplissais que la page de droite. Si vous voulez le texte exact de la page de droite, vous avez une chanson de Dutronc qui est « Fais pas ci, fais pas ça, je falle sur mon bidet hein ». Vous avez dedans des phrases qui parlent de la page de droite. Par exemple, une qui dit « Tu n'es qu'un bon à rien, je te dis ça pour ton bien ». Ça a fabriqué des générations de gens ou inhibés ou rebelles. Mais là, mes parents s'interrogent. Faut-il sanctionner? Comment sanctionner? Moi, il faut que je la marque. Hein. De quel côté je la marque? Ça fait 5 minutes, la sanction n'est toujours pas tombée. Au bout de 10 minutes, elle tombe. C'est « ça va tomber ». Page de gauche, ça. J'avais commencé par une méga bêtise qui coûte pas cher. 10 heures, j'en fais une pire. Et le prix, c'est « je te le répéterai pas ». Page de gauche. 11 heures, troisième bêtise. C'est la dernière fois que je te le dis. Page de gauche. Vous avez des journées comme ça. À 5 heures, on a une tête au carré. On dit « je sais pas ce qu'il a dans la peau ». Depuis ce matin, il n'arrête pas de faire des bêtises. Ben, il est en pleine vérification des limites, le gamin. Hein? Donc à 5 heures, on lui dit « tu mets ton manteau, on va faire les courses ». Là, il fait un petit sourire, paf, une baffe, je te l'avais dit. Hein? Allez savoir dans quelle colonne l'a marqué. Je ne suis pas le centre du monde, je n'ai pas tout. Et le troisième repère fondamental des repères sociaux, c'est « j'attends ». Apprendre à attendre. On est là devant, derrière ces petites choses assez rigolotes que je vous raconte, on est devant des gros problèmes de société. De ces jeunes qui sont dans le tout tout de suite. Le petit est par définition dans le tout tout de suite. Il va falloir l'inscrire dans un projet. Comment est-ce que nous fonctionnons? En principe, chacun d'entre nous fonctionne de la même façon. On produit une action qui est censée nous rapporter un plaisir. Je veux ce bonbon, j'ai brûlé par terre, il faut que je l'aie. Le projet, c'est de faire quelque chose pour un plaisir qui n'arrive qu'après. Se projeter. N'est-ce pas? Mais pour ça, il faut savoir dire non. Il faut savoir faire attendre. N'est-ce pas? Si vous y arrivez, je peux vous assurer que vous faites un travail de lutte contre les décrochages scolaires, par exemple. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes que je vois en décrochage scolaire sont incapables de se projeter. À quoi ça me sert d'apprendre? N'est-ce pas? Pendant longtemps, l'école fonctionnait sur un projet en 3 temps. Si tu travailles bien en classe, tu auras des bons diplômes. Si tu as des bons diplômes, t'auras un bon métier. Ça reste en partie exact. Mais les jeunes que je rencontre, là je parle plus des ados, ils sont pas assez idiots pour pas avoir autour d'eux plein de jeunes bardés de diplômes qui sont au chômage. Ça veut dire quoi? Vous pouvez dire aussi que en aidant les enfants à se projeter, à attendre, vous luttez contre le surendettement. Et je semble aller loin en disant ça, non. C'est un truc quotidien qu'on voit. Les organismes de crédit savent très bien faire. Achetez tout de suite, vous paierez dans 6 mois. N'est-ce pas? Cet écran plat, j'achète tout de suite, mais une fois que je l'ai, c'est plus mon plaisir vu que je l'ai. Et il y en a un mieux, on le paye dans 1 an. N'est-ce pas? Les associations qui aident des personnes surendettées à se sortir du surendettement font un boulot extrêmement sympathique, mais j'espère qu'elles font avec un travail pour donner conscience aux personnes que ce qu'on achète maintenant, il va falloir le payer. Sinon, ça peut cautionner le truc. Alors, mais comment on fait? On va pas parler du surendettement à nos enfants. Les amener à participer à des activités qu'ils font, mais avec un plaisir qui n'arrive pas tout de suite. Dans le magazine « Les assistantes maternelles », il y a un peu plus d'un an, j'écrivais une méthode infaillible. C'était l'histoire de la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, c'était quoi? Je disais aux assistantes maternelles, aujourd'hui, vous allez faire une tarte aux pommes. Alors, on parle du projet là. Hein. Comment vous allez faire? Vous préparez la pâte. Puis les enfants vont dire, on va la manger tout de suite. Non, non. Il faut attendre, c'est pour la tarte. Vous avez mis des petits bouts de pommes dessus, de la cannelle, on va la manger. Il faut qu'elle cuise. Vous l'avez mise dans le four pour qu'elle cuise. Alors, il y a des fois où j'ai envie de pas être copain avec la PMI à ce stade de l'histoire. Donc là, j'ai une technique, c'est de dire, conseiller aux assistantes maternelles d'avoir un four qui brûle. Parce que c'est très éducatif. Il ne faut pas que ça brûle trop, mais un peu quand même, vous voyez. Parce que si la porte ne brûle pas, ben le môme, statistiquement, il va chez d'autres où ça se crame. C'est très éducatif. Ça, c'est uniquement pour être mal avec la PMI, parce qu'on sait bien. Mais on met la tarte dans le four. On va la manger. Il faut qu'elle finisse de cuire. Vous voyez le niveau de frustration? Presque à son top. On sort la tarte du four. On la mange. Non, il faut qu'elle refroidisse. Et après, on la mange. Eh bien, on a fait un boulot, dites donc, avec une tarte aux pommes. C'est incroyable. Alors, le soir, les parents arrivent, veulent faire un surdoué. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? La pauvre Asmat, c'est bête qu'elle dit. Elle dit, on a fait une tarte aux pommes. Ouais, mais on paye assez cher la nounou. Vivement qu'il aille à l'école, hein, franchement. Mais non, dès demain, vous allez faire une tarte aux pommes. Et quand les parents vont dire, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous allez dire, on a travaillé le projet. C'est les seules assistantes maternelles qui travaillent le projet. Et c'est pas mensonger. En préparant un carnaval, en faisant des masques, en préparant une sortie, en faisant quelque chose pour un plaisir qui n'arrive qu'après. On apprend tout bêtement à des enfants à attendre. C'est déterminant. Et à sortir de cette pathologie que je vois de plus en plus chez les jeunes, c'est tout de suite. À tout niveau. J'ai deux secrétaires qui travaillent ensemble, et dont une jeune femme de 21 ans qui est super sympa, qui bosse vachement, mais qui est toute la journée avec ses SMS. Et quand je passe devant son bureau, je sais quand elle n'en reçoit pas, parce qu'elle est très triste. Au bout d'une demi-heure, quand elle a plus de SMS, elle me dit « j'ai plus d'amis ». Alors j'envoie un petit SMS pour dire quand même qu'il y a encore des gens qui pensent à elle. Mais c'est terrible. Hein, tout de suite, n'est-ce pas? Apprendre aux enfants à attendre. Repères individuels, repères sociaux. On va faire un tout petit coup de flash, rassurez-vous, les cours, je vous le jure, sur les repères familiaux. Avant, je glisse une petite parenthèse très courte pour faire comprendre à l'enfant qu'on n'est pas d'accord. Savoir lui dire non, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui est très important, c'est de pouvoir sanctionner son comportement. J'appuie sur le mot sanctionner et je fais à ce niveau-là la différence entre sanction et punition. Je ne vous parle pas de punition, je parle de sanction, c'est-à-dire de cadre. De cadre qui rassure l'enfant. Prenons un exemple, il est énervé à la maison. On va pouvoir le sanctionner en lui disant, t'es énervé, tu vas dans ta chambre, tu te reposes et quand ça ira mieux, tu reviens. On est devant un cadre. On peut le punir en lui disant, si t'es méchant, tu vas au lit. Ça paraît pareil, c'est pas du tout pareil. Et je peux vous assurer qu'on a beaucoup étudié les problèmes de sommeil, beaucoup plus fréquents chez des enfants qui ont été punis en étant envoyés au lit, que des enfants pour qui la chambre était un lieu de repos. Alors qu'est-ce qu'on aura sanctionné? On a parlé de la faculté d'adaptabilité tout à l'heure, c'est-à-dire l'enfant à comprendre qu'on ne se comporte pas de la même façon avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Ce qu'on doit sanctionner, c'est ce qui nous dérange. Faire comprendre à notre enfant qu'on n'est pas d'accord. Comment sanctionner? Je ne vais pas vous dire, bien évidemment, ce repère est très important, je ne vais pas vous dire la liste des bonnes sanctions. Un enfant qui est plutôt très sensible, une toute petite sanction, ça va marcher. Un enfant à un chicouf, là, hein, même pas mal, il va être sans arrêt dans la provoque. Et des fois, c'est terrible, quand on en a un comme ça, d'être sans arrêt en conflit avec notre propre enfant. D'où l'intérêt de le prêter à des amis. Alors, Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut sanctionner, mais comment faire passer une sanction. Il y a 9 critères, à mon sens, pour qu'une sanction soit efficace. C'est-à-dire que l'enfant fasse le lien entre ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit et la sanction. Il faut, premièrement, qu'elle soit